Bonsoir à toutes et à tous. 38 degrés à Dieppe, 39 à Paris, à Grenoble, à Besançon, 40 à Dijon, 41 en région lyonnaise et 42 degrés hier à Saint-Jean-de-Luz. La France est confrontée à un nouvel épisode caniculaire qui vient se superposer à la sécheresse. 68 départements font actuellement l'objet de mesures de restriction d'eau avec un feu de forêt cette nuit à Anglette dans le Pays Basque. Tout cela nous arrive sur fond d'épidémie. La nature que l'on croyait maîtrisée, eh bien cette nature se rappelle à notre bon souvenir et nous frappe durement. Comment se protéger face à ces épisodes caniculaires de plus en plus fréquents? Et puis quels sont les changements définitifs qui se dessinent à court et moyen terme? Enfin, question, est-ce par la décroissance et le retour à la nature ou bien par l'innovation que l'humanité réussira à se réconcilier avec son environnement? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Canicule, sécheresse, Covid, une planète hostile » avec un point d'interrogation. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Magali Reghezza. Vous êtes géographe, spécialiste des risques naturels et des questions environnementales et membre du Haut Conseil pour le climat. Frédéric Danhé, vous êtes journaliste et auteur spécialiste des questions environnementales. Je précise qu'on peut suivre pendant tout l'été dans le magazine Marianne votre enquête en 6 épisodes sur l'eau. Sophie Fay, grand reporter à l'Obs, en charge des questions économiques. Et enfin, Françoise Vimeux, vous êtes climatologue, directrice de recherche à l'IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement. On commence avec vous, Françoise Vimeux. On voit bien que ces canicules arrivent de plus en plus souvent. Est-ce que ça va devenir la norme? Ou pire, est-ce qu'on n'est qu'au début d'un processus qui va s'aggraver?
Alors, ça va devenir la norme, ça a commencé. Si on regarde la deuxième partie du XXe siècle, hein, Météo France a recensé une quarantaine de vagues de chaleur et plus de la moitié d'entre elles sont arrivées après les années 2000. On voit bien qu'elles vont être plus fréquentes. On a eu deux vagues de chaleur importantes en 2019 en France. On a battu des records de température absolue. On a enregistré des températures de 46 degrés dans le sud de la France. On n'avait jamais enregistré ce genre de température sur le territoire hexagonal. On a battu des records locaux à Paris, plus de 42 degrés, à Lille, plus de 40 degrés. Donc elles vont être plus intenses, elles vont être plus précoces, hein, puisque l'année dernière, c'était la première canicule est arrivée en juin. On pense qu'elles vont être aussi plus tardives, donc au mois de septembre, peut-être au mois d'octobre. On pense aussi qu'elles vont être plus longues, donc pas seulement quelques jours, mais ça peut s'étaler sur une semaine, deux semaines, comme en 2003. Et on pense effectivement, enfin on pense, les simulations numériques pour les décennies à venir nous montrent que, eh bien, des étés comme 2003, par exemple, vont être des étés qui vont être des étés normaux à la fin du XXIe siècle.
On va vers les 50 degrés, là, c'est...
On y va, alors plus ou moins vite, avec des petites oscillations D'accord. d'une année à l'autre, mais ça va devenir effectivement la norme.
Alors Sophie Fay, il faut qu'on réagisse. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que climatiser notre appartement? J'ai vu en préparant cette émission qu'on prévoyait un triplement des ventes de climatiseurs d'ici 2050. Alors même si cette année, pour le coup, la climatisation n'est pas recommandée parce que ça brasse de l'air et ça favorise la circulation du virus.
D'ailleurs, en général, ce n'est pas recommandé, puisqu'effectivement, ça ne fait qu'aggraver le problème que ça cherche à résoudre.
Mais ça utilise beaucoup d'énergie ?
D'énergie, et puis surtout, certains climatiseurs, si j'ai bien compris, émettent certains gaz qui accélèrent le réchauffement de l'air, donc qui recréent le problème que ça cherche à résoudre. Non, ce qui est intéressant, c'est que la réponse, elle est peut-être à rechercher dans ce qui se passait dans l'urbanisme qu'on avait, ou dans les manières de construire qu'on avait dans les années 50, dans les années 60, quand on n'avait pas cette réponse technologique à tout ça. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi ce qu'on peut penser sur la consommation. Est-ce que finalement, on ne va pas revenir progressivement vers une consommation qui ressemble plus à celle des années 60, avec, en tenant compte de tous les progrès qu'on a fait depuis, mais en revenant en arrière? D'ailleurs, il y a beaucoup de tendances qu'on voit aujourd'hui.
Vous voulez dire que les grandes baies vitrées qu'on a installées là dans le sud pour avoir le soleil toute l'année, en fait, c'est idiot, il faut revenir aux petites fenêtres provençales de nos grands-parents?
Oui, il faut peut-être revenir à savoir conserver le frais, il faut revenir peut-être aux murs épais qui conservent la fraîcheur dans les maisons, il faut peut-être retrouver des systèmes d'aération naturels plutôt que d'avoir ces climatiseurs systématiquement. C'est essayer de trouver des solutions sans énergie, plus naturelles, redécouvrir un peu ce que faisaient nos ancêtres.
Magali Reghezza, on a intitulé cette émission « Une planète hostile » avec un point d'interrogation. Est-ce que malheureusement, on va vers ça? Je pense à ça parce qu'en Australie, il y a eu des feux de forêt et on vient d'apprendre qu'il y aurait eu près de 3 milliards d'animaux victimes de ces feux de forêt en Australie. Donc, est-ce que l'Australie est en train de devenir une terre invivable ?
Alors, il y a deux choses. Il y a les impacts, effectivement, des transformations environnementales pour l'ensemble des habitants de la planète, donc les animaux aussi. Et donc ça, on voit très bien qu'aujourd'hui, on a une crise de la biodiversité qui est bien documentée et qu'on, malheureusement, on découvre et qu'on voit que ça, c'est bien plus grave encore que ce qu'on pensait et qui va être forcément aggravée par les changements climatiques qui nous attendent. Maintenant, il y a la question de l'humanité. L'humanité, ce n'est pas une espèce comme les autres sur la Terre. L'humanité, la différence avec d'un homme avec une plante verte ou un animal, c'est que l'homme a une capacité de choix, une capacité technique qui lui permet de s'adapter volontairement. Il n'est pas adapté ou inadapté, il peut s'adapter. Donc, a priori, on peut habiter partout. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez des gens qui habitent en Antarctique, par exemple. Il y a des scientifiques qui sont dans des bases en Antarctique. On songe même à envoyer des gens sur Mars. Le problème, c'est que ça coûte un peu cher. Ça coûte cher financièrement, ça coûte cher socialement, ça coûte cher environnementalement, et que donc à un moment il va falloir faire des choix. La question c'est pas est-ce que l'humanité va disparaître, on le dit à chaque fois, c'est pas ça. C'est qui va payer, et dans un monde qui effectivement va être plus compliqué à habiter. Parce que ce que disait tout à l'heure Françoise, quand on va avoir des vagues de chaleur nombreuses, ça veut dire que nos organismes vont être plus fatigué, plus fragile. Ça veut dire que quand on va être une personne âgée, une femme enceinte, un malade, un nourrisson, ça va être plus dur. Donc la question, c'est pas est-ce que la planète va devenir inhabitable. Pour l'instant, c'est pas le cas. Par contre, c'est quel va être le coût de l'habitabilité, qui va le supporter et est-ce qu'il va être supportable. Parce que pour des tas de gens dans le monde, les efforts pour habiter les territoires ne seront plus supportables. Parce qu'ils ne pourront pas tout simplement payer. Parce qu'à un moment, effectivement, il faudra faire des choix, que ce soit par exemple sur les littoraux avec la montée du niveau marin. Bien sûr, on peut construire des digues. Qui va les payer ? Bien sûr qu'on va pouvoir aller vivre dans des villes. On a vu, hein, on peut vivre dans des capsules, en mangeant. Enfin, on sait faire. On sait où on saura faire. Mais à quel coût ? Et quand je parle de coût, je parle de coût financier, mais je parle aussi de coût social. Parce que derrière, ça va être nos modèles, nos modes de vie traditionnels, notre façon de consommer, notre façon de se distraire, notre façon de voir nos amis, nos relations. On a vu là, pendant la période Covid, comment ça a changé complètement nos façons de vivre. Voir notre famille, voir nos amis, on ne se fait plus la bise, on ne sort plus. C'est ce qui nous attend aussi, c'est-à-dire une planète, un monde qui change. Et donc, on a un choix aujourd'hui. Et le choix, il est maintenant, hein. C'est maintenant. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de choses qui doivent être entreprises maintenant pour que ça devienne à peu près vivable, tolérable du point de vue économique, éthique, politique, à l'horizon 2050. C'est-à-dire quand nous, on sera dans les maisons de retraite. Hein. Voilà. Mais c'est ça le fond du débat. Et pour les jeunes qui arrivent. Donc si vous voulez, on est dans cette question. Il faut pas, la question, ce n'est pas est-ce que l'humanité va disparaître et ce n'est pas est-ce que la Terre va devenir inhabitable. La Terre, elle a connu d'autres climats, ce n'est pas le problème. La question, c'est aujourd'hui, les actions qu'on va mener, comment est-ce qu'elles vont nous permettre de vivre et de vivre bien dans un climat de justice qui fait que ce n'est pas toujours les mêmes qui payent et les mêmes qui sont éliminés, parce que ça va conduire aussi, ça peut aussi conduire à ça. Et donc, ce n'est pas est-ce qu'on peut habiter, c'est à quel prix on va pouvoir habiter.
Frédéric Dan, et en tous les cas, partout, on cherche à limiter les effets de ce réchauffement climatique, mais on a l'impression qu'il y a une énorme fatalité, que le coût est parti. Et d'ailleurs, cette fatalité, elle est rationnelle. La France, c'est 1% des émissions de CO2. Donc nous, on aura beau faire dans notre petit hexagone tous les efforts qu'on veut, si les 99% du reste de l'humanité ne jouent pas le jeu, bah, ça ne sert à rien ce qu'on fait.
Oui, enfin, et alors c'est pas parce qu'on est si petit qu'il ne faut rien faire, d'autant plus que le problème s'adresse à tous. La France descend vers le sud. Lille se retrouve à Paris, Paris se retrouve à Lyon, Lyon à Marseille, Marseille à Casablanca. C'est ça qui est en train de se passer. Ce sont les conditions climatiques qui changent complètement. Donc que la France fasse ou fasse pas, on va devoir s'adapter. C'est même plus la question de limiter le changement climatique. Ah ouais. Le 1,5°, on n'y arrivera pas. On est obligé de s'adapter à un climat, à une qualité, une quantité d'eau disponible qui remettent en cause notre mode de vie qui est issu d'un monde où il faisait moins chaud, où il y avait moins de risques caniculaires, un monde où l'énergie était pas chère, un monde en pleine croissance, où l'argent ne coûtait rien. Ce monde n'existe déjà plus. Et donc, il y a la question du coût, il y a la question du... Comment dirais-je ? Il y a la question du prix, en fait. On voit bien que notre vie va être de plus en plus chère, parce que l'énergie va coûter de plus en plus cher, parce que la transition écologique, la transition énergétique, qui n'est toujours pas là en France, va demander des investissements, alors même qu'on n'a plus un rond, là. Bon. Mais derrière tout ça, c'est une révolution culturelle. C'est une révolution culturelle parce que le monde de demain, on ne sait pas... Comment dirais-je ? On ne sait pas à quoi il va ressembler, si ce n'est qu'il ne sera pas le monde d'aujourd'hui. La façon, on voit bien que nos villes, par exemple, vous l'avez dit, nos villes ne sont pas adaptées du tout à la chaleur. Nos façons de construire ne sont pas du tout adaptées à la chaleur. On voit bien que les transports sont des émetteurs nets de gaz à effet de serre. Et ce n'est pas en mettant des voitures électriques qu'on va changer le problème. Pourquoi on utilise autant la voiture ? Parce qu'il y a un aménagement du territoire qui a conduit à un étalement urbain, lequel étalement urbain nous oblige à avoir des voitures qui émettent des gaz à effet de serre. Donc c'est tout ça qui est en train d'être mis en cause. Et ça réclame une vision politique qui est totalement absente de l'État, mais qui est présente dans les territoires et dans les collectivités qui, elles, sont en train d'adapter le pays.
Alors, nouveau coup de chaleur sur la France et le thermomètre qui part en droit a atteint une fois encore, une fois de plus, des records, des conditions extrêmes qui entraînent sécheresse et incendies, et pas seulement dans l'Hexagone, en Sibérie, actuellement en proie à de gigantesques feux de forêt. Le mercure est monté en Sibérie jusqu'à 38 degrés Celsius. Voyez ce reportage de Juliette Vallon et David Lemarchand.
Des records de chaleur atteints hier dans le sud-ouest de la France, où le thermomètre a grimpé jusqu'à près de 42 degrés dans le Pays basque. 13 départements sont toujours en vigilance orange canicule cet après-midi. Derrière ce pic de chaleur, la crainte de la sécheresse, avec comme première victime les agriculteurs. L'Orne fait aujourd'hui partie des 68 départements placés sous vigilance. Propriétaire de 270 hectares, Christophe Parfait commence à s'inquiéter pour son exploitation et ses cultures de céréales. Avec le printemps très sec et le manque de pluie, ses champs sont en grande partie grillés.
Vous voyez une orge, hein, donc on peut voir les effets de notre printemps. Hein, des épis qui sont très petits, des grains petits. Hein, on voit que les pailles en plus sont très très courtes. Donc ça, c'est un gros problème, parce que moi, je suis aussi vendeur de paille. J'ai des collègues agriculteurs qui se fournissent auprès de moi sur un rayon de 5 km.
Compliqué aussi pour Christophe de nourrir ses bêtes. Avec 2,5 fois de paille dans ses prés, l'agriculteur est obligé de faire des choix.
Pour pouvoir tenir jusqu'au printemps prochain, donc je vais être obligé de puiser dans mes stocks fourragers qui étaient prévus pour cet hiver. Donc je vais m'adapter, je vais diminuer le nombre de bêtes. Je vais aussi diminuer la part d'engraissement sur mon exploitation.
Face au problème de la sécheresse dans l'Orne, les autorités ont donc décidé de limiter l'usage de l'eau par les particuliers. Des restrictions sont imposées aux habitants de la commune jusqu'au 30 septembre prochain.
Actuellement, ce qui est fortement déconseillé, c'est le remplissage des piscines, le lavage des véhicules, l'arrosage des fleurs. On est fin juillet et on s'aperçoit qu'on est dans une moyenne de fin août, voire début septembre.
Une sécheresse installée dans de nombreux départements français et qui attise les incendies. En plein cœur d'Anglet, la nuit dernière, un feu a obligé les habitants de ce quartier à évacuer. 11 maisons ont été touchées et 165 hectares de forêt ont brûlé.
C'est une catastrophe pour Anglet, pour ses habitants. Ça fait partie de notre histoire. Je veux dire, pour nous, c'est un drame, ça va au-delà. Aujourd'hui, on est devant un spectacle navrant.
Une situation encore plus extrême en Russie et dans sa région de Sibérie, d'ordinaire l'une des plus froides du pays. Plus 5 degrés en moyenne pour la température depuis janvier, qui a même atteint un pic de 38 degrés. Une vague de chaleur exceptionnelle liée au réchauffement climatique, selon une étude internationale. Les incendies y ont déjà ravagé l'équivalent de la surface de la Grèce.
La situation des incendies de forêt reste malheureusement tendue. L'hiver anormalement chaud, avec de faibles chutes de neige, et le printemps sec arrivé tôt cette année, a conduit au début précoce de la saison des risques d'incendie, puisque cette année, nous avons constaté les premiers feux en janvier. Pour la première fois dans l'histoire de la surveillance spatiale, un incendie a même été enregistré au-delà du cercle arctique.
Avec la crise du Covid, les émissions mondiales de CO2 devraient baisser de 4 à 7% sur l'année 2020. Si cette baisse était respectée chaque année, elle permettrait d'honorer l'accord de Paris sur le climat pour limiter le réchauffement climatique de la planète à 1,5 degré.
Alors, question téléspectateurs, quelles peuvent être les conséquences de la vague de chaleur que connaît la Sibérie ? On va parler des conséquences, mais peut-être d'abord les causes. Françoise Vimeux, ça paraît incroyable, ce 38 degrés en Sibérie, donc au-delà du cercle polaire ?
Alors, c'est incroyable parce qu'en fait, la température attendue à cette période, c'est plutôt de l'ordre de 17 degrés au mois de juillet. C'est pas, là, on a vraiment un extrême à 38 degrés au-delà du cercle polaire, mais depuis le début de l'année, il fait vraiment très chaud en Sibérie. Le premier semestre a été vraiment très, très chaud. Et c'est pas incroyable, et, en tout cas, nous, climatologues, on n'est pas surpris parce qu'on sait que les latitudes plus hautes, c'est-à-dire vers le pôle nord ou vers le pôle sud dans l'hémisphère sud, vont se réchauffer plus vite que les régions tropicales ou les pays tempérés comme la France. Donc le fait que le réchauffement climatique soit vraiment très marqué en Sibérie, ce n'est pas une surprise. Après, 38 degrés...
Ça veut dire qu'on ira bientôt à la plage en Sibérie, à 38 degrés?
Ah bah avec 38 degrés...
Bon, la banquise se fond et qu'il fait 30 degrés, ça s'appelle la plage.
Oui, il fait 38 degrés sur le continent, la mer reste froide l'océan a une inertie qui fait qu'il ne se réchauffe pas aussi vite que la Terre. Après, là, c'est vraiment très exceptionnel. Et il y a une étude qui vient d'être réalisée qui montre que dans un climat non modifié, cet événement n'aurait quasiment pas pu exister, émerger, et qu'aujourd'hui, cette situation, elle est 600 fois plus probable qu'elle ne l'était au début du XXe siècle. Et donc là, on est vraiment dans une situation quasiment exceptionnelle pour la Sibérie.
Alors, pour répondre à la question téléspectateur, Frédéric Danhé, quelles sont les conséquences maintenant de cette vague de chaleur que connaît la Sibérie? Parce que c'est loin, la Sibérie.
Oui, pas tant que ça. C'est 25% quand même de la surface de l'Amérique et de
l'Europe. Mais est-ce que ça peut nous toucher?
Oui, ça peut nous toucher parce que comme la décomposition des végétaux est très lente, il y a beaucoup de carbone et il y a fabrication de méthane, parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Mais dès lors que ça fond, l'oxygène vient en contact avec tout ça, le méthane est libéré, une partie du méthane se transforme en CO2, donc ça ne peut qu'augmenter le changement climatique. Alors après, il y a un risque. On aime bien se faire peur sur les virus, les mégavirus, les gigavirus, parce qu'il y a des virus et des bactéries qui sont dedans, qui datent de 100 000, etc. Sauf qu'il n'y a rien qui permet de dire que ça va se libérer, il n'y a rien qui permet de dire...
Mais vous permettez qu'on soit un petit peu paranoïaque en ce moment avec les virus. Ah, si on libère des virus que l'humanité n'a pas vu depuis 100 000 ans, ça risque de faire des dégâts, non?
Oui, sauf que des virus et des bactéries, il y a déjà dû en avoir dans l'atmosphère libérée par le permafrost qui fond de temps en temps. Il y en a aussi, ce sol gelé en permanence dans les Alpes, qui fond lui aussi. Il y a aussi forcément des émissions de bactéries et de virus... Jusqu'à présent, on peut absolument rien dire sur ce risque-là.
Je pourrais peut-être juste tempérer sur la libération du carbone qui est dans ces sols gelés, parce qu'en fait, il y a encore des grosses incertitudes sur la fraction de carbone qui pourrait être libérée dans le cadre du changement climatique. Et il y a aussi beaucoup d'incertitudes sur cette fraction et la vitesse à laquelle le carbone va se libérer. On ne sait pas si c'est une évolution lente ou rapide. Voilà.
Ça se fera, mais on ne sait pas à quel rythme.
Oui. Sophie Fay, on revient en France. 42 degrés hier à Saint-Jean-de-Luz, avec un feu de forêt, malheureusement. À Anglette, mais c'est surprenant parce que les sécheresses et les feux de forêt, c'était surtout en Provence. Est-ce que, et il y a beaucoup de maïs, si je ne me trompe, dans cette région, est-ce qu'il va falloir revoir la carte agricole de France? Est-ce que ce changement climatique impose aux agriculteurs de changer les cultures? On sait que ce matin, Julien de Normandie a dit on va faire des bassins de rétention d'eau pour éviter que l'eau de pluie en hiver ne soit gaspillée et s'écoule vers la mer.
On va essayer, mais on voit bien que ça change la géographie. Même le Grand Est, qui était un peu un réservoir d'eau, se retrouve là à sécher. Donc ça, c'est général. On a vu qu'il y avait des jeunes agriculteurs qui commençaient à planter des céréales qu'on retrouve plutôt en Afrique, mais même si ça passe pas très bien. Mais effectivement, il y a une réflexion et il y a une prise de conscience de cette population-là, bien sûr.
Il y a même les Anglais qui veulent faire du champagne, parce qu'ils disent on va bientôt avoir le climat de la Champagne.
Voilà, on remonte les producteurs de vin de plus en plus haut. On attend des vendanges là dès avant le 15 août, ça pourrait commencer sur certains vignobles. Ouais. Donc c'est vrai que...
La teneur en viticulture. On parlait tout à l'heure du Covid. Est-ce que dans ces épisodes canicule et Covid, est-ce qu'on peut considérer que ce sont comme des alertes que nous envoie la nature, que nous envoie la Terre sur attention, il va se passer des choses? Est-ce qu'il faut y voir un parallèle?
C'est au-delà des alertes, en fait. Sur la canicule, on voit bien que c'est ce réchauffement climatique dont on parle depuis des années et des années. Et il y a encore des études qui montrent, il y a une étude de Reuters et d'Oxford, de l'université d'Oxford, qui montre encore que dans certains pays, il y a 12% de climato-sceptiques. On voit que même dans les pays scandinaves, il y a encore des... Même s'ils nous envoient Greta Thunberg, il y a encore des climato-sceptiques. Ouais. Donc on ne peut pas parler de signes. C'est malheureusement une tendance... sur laquelle on alerte depuis des années et qui est là. Quant au Covid, ce qui est intéressant, c'est que Alors, on a vu au début, vous savez, quand, au début, quand on a essayé d'analyser les causes du Covid, et surtout quand on a commencé à parler du monde d'après, ce qu'on a très vite arrêté de faire, on a dit qu'il y avait un lien avec nos modes de vie, avec la déforestation.
On était allé trop près des animaux, au fond, que l'humanité, à force de faire la déforestation, était en contact.
En contact, et puis on a cette... on voyage vite, on voyage plus, donc ça circule plus vite, mais on voit bien que ça existait aussi au moment des grandes pandémies du début du siècle ou du 19e, donc c'est pas la seule cause, mais on voit bien que ça nous a amené à réfléchir à notre modèle. Et pendant cet épisode de Covid, on a aussi eu un moment de décroissance réelle.
On va y revenir, ça, sur la décroissance.
Et donc, on a aussi réfléchi à ce qu'était une autre manière de vivre. C'est pas sûr que ça nous ait beaucoup plu, mais il ne faut pas arrêter la réflexion.
Mais alors, d'abord, sur le constat, pour rester sur le constat, Magali Riezza, autrefois, on parlait du progrès. Enfin, les hommes politiques se faisaient élire en nous promettant le progrès. On a l'impression que maintenant, l'avenir, ce n'est plus le progrès, c'est l'inquiétude. C'est quand même dramatique de se dire que nos enfants vivront dans une terre moins fertile et moins agréable que la nôtre.
D'abord, l'un n'empêche pas l'autre. Je signale quand même que, pour le coup, quand on regarde nos conditions de vie aujourd'hui et celles de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, je ne suis pas sûre. Enfin, voilà, chaque époque a ses problèmes, donc faut rester un peu quand même calme. Maintenant, il est clair que, d'abord, le changement climatique, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Je pense qu'il faut quand même le dire à un moment donné, c'est-à-dire que là, on est à un moment donné où les agriculteurs, on parlait des agriculteurs, les agriculteurs alertent depuis des années, je veux dire, le problème de l'avancée des vendanges, la question, ceux qui travaillent par exemple en sylviculture, ceux qui travaillent sur les vignobles, ceux qui travaillent sur les agriculteurs disent depuis des années, il se passe quelque chose.
Les vendanges, on les faisait avant.
On les fait beaucoup plus tôt. On voit bien
que... On les fait en août, alors qu'avant, on les faisait en septembre-octobre.
Tout jardinier amateur sait que cette année, il a eu des fleurs au mois de février, il a eu des bourgeons à des époux, on ne pensait pas les avoir. Alors, là aussi, et c'est l'argument des climato-sceptiques, le climat de la Terre a toujours changé. Et il y a effectivement des années plus chaudes, des années plus froides. On rappellera la sécheresse de 76. Oui, il y a eu des sécheresses en France avant. La question, c'est comment est-ce que c'est lié au changement climatique. Et aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est qu'on arrive à dire que tel événement est lié au changement climatique. Dans beaucoup d'émissions qu'on a fait sur ce plateau, on a dit attention, on n'est pas sûr, il y a une tendance. Là, maintenant, on sait que ce qui est en train de se passer, effectivement, est lié à une transformation de la dynamique générale de l'atmosphère. À partir de ce moment-là, ça veut dire que derrière, on est dans un mouvement qui est là et qui va effectivement changer considérablement nos modes de vie. On commence quand même à avoir une idée de ce qui peut se passer parce qu'on a des modélisations, parce qu'on voit aussi des choses arriver. Et donc, on a deux options. La première option, c'est ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire essayer au maximum de limiter les rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais là aussi, il ne s'agit pas de revenir à l'âge de pierre. Ce sont les caricatures. L'atténuation, c'est effectivement d'adopter des modes de vie plus sobres où on va réfléchir à ce qu'on émet. On va surtout réfléchir à ce qu'on appelle la neutralité carbone. Qu'est-ce que c'est que la neutralité carbone ? C'est que quand je relâche un gaz à effet de serre dans l'atmosphère, je me débrouille pour en enlever. Et pour ça, il faut par exemple du progrès technique. Il ne faut pas que ça, mais il faut du progrès technique. Et ensuite, il y a ce que disait Frédéric, c'est-à-dire que le changement étant là, il est déjà là puisqu'on a vu que notre climat a évolué depuis 1950 et il va continuer à évoluer. Il y a ce qu'on appelle l'adaptation. L'adaptation, c'est-à-dire se transformer, transformer nos modes de vie pour que ça reste supportable, vivable, voire agréable, à des coûts raisonnables et dans le respect de principes éthiques élémentaires. Parce que là aussi, il y a des enjeux très forts sur qui va en profiter et qui ne va pas en profiter. Et il y a des gens qui vont profiter du changement climatique et il y a des gens qui vont en être victimes. La question, c'est est-ce que c'est juste ou pas ? Une fois qu'on a posé ce débat-là, la question du progrès, elle est fondamentale. La question du progrès, elle est fondamentale parce qu'elle pose d'abord la question de qu'est-ce que la technique peut nous apporter pour nous aider à y aller le moins vite possible dans ce mur, à le reculer, voire à en faire des choses positives. Le progrès, c'est aussi un progrès, au-delà du technique, un progrès social. Il ne s'agit pas qu'effectivement, on revienne dans un monde perclus d'inégalités, où on revienne sur tous les acquis sociaux, les acquis économiques et les acquis politiques qu'on a pu avoir. Et donc ça, c'est ce que disait, c'est un changement de civilisation. Juste par précision, quand vous prenez la première révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle, ça s'appelle des révolutions. Dans le genre changement de société, excusez-moi, on a connu pire. La question, c'est est-ce qu'on s'y prépare, est-ce qu'on l'accompagne, ou est-ce qu'on est passif? Et finalement, notre inaction fait que on regarde comme les vaches qui regardent passer les trains et on attend que ça passe.
Alors justement, pour revenir sur les choses très concrètes, sur la carte agricole de France, Frédéric Danhé, le maïs dans le sud-ouest, on va oublier ou est-ce que c'est quand même le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, qui disait c'est vrai, il y a beaucoup d'eau qui passe qu'on regarde comme les vaches, qu'on regarde couler en hiver, alors qu'on pourrait faire des bassins de rétention d'eau pour justement pouvoir cultiver le maïs et arroser, irriguer en été.
Oui, on peut, mais c'est un peu une fuite en avant. Alors, on peut créer ce qu'on appelle des retenues collinaires ici et là, mais c'est de l'eau qui, de toute façon, est captée. C'est de l'eau qui ne retournera pas dans le milieu naturel, c'est de l'eau qui va s'évaporer, c'est de l'eau qui serait là pour entretenir un système qui, par définition, est un système qui, sans doute, n'est plus adapté dans le sud-ouest. D'accord. Non pas parce que le maïs pompe trop d'eau, mais pompe trop d'eau en plein été au moment où il y a moins d'eau pour tout le monde. Donc il y a dans le Tarn et Garonne, oui, enfin dans le sud-ouest, peut-être que, enfin c'est même pas peut-être, c'est quasiment sûr, demain le maïs, on ne pourra plus le faire. Par contre,
qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va cultiver ?
Non, on va cultiver d'une façon différente. La meilleure façon de retenir l'eau dans le sol, la meilleure façon de faire que les sols absorbent du carbone, c'est que les sols soient les moins travaillés possibles, les moins labourés possibles et les plus couverts possibles tout le long de l'année. C'est-à-dire entre les deux cultures de rente, entre le maïs et l'orge, vous mettez notre culture, vous mettez des légumineuses, vous mettez du trèfle. C'est ce qui s'appelle la conservation des sols. Ça se développe beaucoup, c'est les agriculteurs eux-mêmes qui portent ça. Et alors, je ne sais pas comment travailler à l'agriculture là, mais l'agronomie prouve que les agriculteurs qui sont en conservation des sols ont des sols plus épais, plus riches, mieux travaillés par les racines, donc plus riches en matière organique, qui ont moins de problèmes d'eau, pour lesquels la sécheresse arrive plus tard. Donc, on voit déjà vers quoi on va. Le monde agricole est sans doute celui qui est en train de s'adapter le plus et le plus vite, de remettre en cause son modèle, quoi qu'on en pense.
Alors, la carte agricole va changer. Est-ce que la carte de population va changer ? Écoutez, juste avant d'entrer dans cette émission, il y avait une personne qui me disait « Moi, je viens d'acheter une résidence secondaire en Bretagne. Je suis persuadé qu'avec le réchauffement climatique, dans 10 ans, la Bretagne, ce sera top. » Françoise Vimeux, vous, la spécialiste du climat, est-ce qu'il a fait un bon investissement ?
Alors, je vais devenir agent immobilier parce qu'on me pose souvent des questions
voilà.
De ce genre.
Ou acheter ou ne pas acheter.
Voilà. D'abord, sur le littoral, là, je crois qu'il y a des vraies questions qui sont liées, d'une part, à la montée du niveau des mers, mais aussi aux événements extrêmes comme les tempêtes. Alors, sur le territoire hexagonal, on a des tempêtes. Dans nos outre-mer, on a des cyclones. Et donc là, il y a vraiment une réflexion à avoir sur où on habite par rapport à la mer. On a vu pendant la tempête Xynthia, vraiment une catastrophe. Il y a eu une surcote marine de plus d'1,60 m à La Rochelle. Et on a vu tous ces villages, villes détruites, malgré les digues, je dirais. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, effectivement, on voit aujourd'hui, hein, il fait toujours un peu plus frais dans le Cotentin et en Bretagne, et déjà aujourd'hui, hein, les gens qui souffrent de la chaleur partent en vacances dans ces régions. Et donc, effectivement, je pense que d'ici 50 ans, l'été sera certainement plus agréable dans ces régions que dans le sud-est ou le sud-ouest de la France. Passer l'été 2003 tous les ans en Méditerranée ou alors, je ne sais pas, en Dordogne, ça doit être quand même difficile. Donc effectivement, il va y avoir certainement une redistribution de ces zones touristiques ou même des zones de vie où il fera bon vivre, j'imagine, oui.
Et les stations de ski ? On dit que les jeunes ne skient plus, ils ont raison, parce que de toute façon, dans une génération, ce sera fini.
Alors, c'est un vrai problème. On voit déjà, enfin, il me semble que la saison 2019-2020 a été terrifiante. Il n'y a quasiment pas eu de neige sur les stations de moyenne altitude. Donc, ça touche, par exemple, tout ce qui est le ski de fond. Pas forcément le ski alpin, parce qu'on peut monter très haut, et donc là, il y a encore de la neige l'hiver. Et on voit déjà les stations qui pensent à des reconversions sur d'autres activités pendant les mois où, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, on faisait de la luge, du ski, etc.
D'ailleurs, elle ne parle plus de ski, elle parle de montagne. On vend la montagne maintenant.
C'est comme ça qu'elle présente les choses. Et d'ailleurs, je pense qu'elles ont assez bien anticipé ce genre de soucis.
Alors, face à l'urgence climatique, le gouvernement veut promouvoir le transport de marchandises par train. Jean Castex a annoncé lundi plusieurs mesures pour relancer le transport ferroviaire et éviter ainsi la circulation et la pollution de 20 000 poids lourds par an. Il a également souhaité que la ligne Perpignan-Rungis soit relancée. Reportage de Laura Rado et Diane Cacciarella.
Des quais complètement déserts, une gare comme abandonnée. Le Perpignan-Rungis partait d'ici jusqu'en juillet dernier.
Ouais, mais alors, ces wagons, heureusement qu'ils n'ont pas été détruits. Ils pourraient redémarrer dès septembre, non ?
Ces cheminots se battent pour relancer la ligne. 400 000 tonnes de marchandises étaient transportées chaque année. Des fruits et légumes, en provenance du sud-ouest et d'Espagne, direction l'Île-de-France pour y être vendus.
Pourquoi on est attaché à ce train ? Puisque au-delà de ce train, à l'époque, c'était trois trains qu'il y avait. Même 4 trains, aux alentours des années 2000, on était à 4 trains fruits et légumes qui montaient à Paris. Aujourd'hui, la marchandise, elle existe, la consommation, elle y est toujours, et on ne comprend pas pourquoi ces marchandises ne sont plus sur ce train.
Le gouvernement a plusieurs fois annoncé la reprise de la ligne, sans effet jusque-là. Pour la SNCF, les 80 wagons réfrigérés sont vétustes et doivent être remplacés. Une facture estimée à 25 millions d'euros que personne ne veut assumer.
Les wagons, ils ont 40 ans et vous pouvez constater que l'État est, on va pas dire irréprochable. Les palettes ont frotté, mais il n'y a aucun trou dans la carrosserie. C'est des wagons qui peuvent être remis en circulation dès septembre. On emmène des fruits et légumes à la capitale. Donc, ça fait chaud au cœur, quoi. Et ça fait surtout très mal au cœur de voir les wagons ici et qu'on a plus de. Malheureusement, on n'a plus trop de travail.
La fin du train des primeurs, c'est 80 semi-remorques de plus sur les routes chaque jour. Quand le trafic ferroviaire, lui, n'en finit pas de décliner. De 30% en 1980, la part du rail dans le transport de marchandises n'atteint même pas 10% aujourd'hui. Une chute ralentie depuis 2006, avec l'ouverture à la concurrence et l'entrée sur le marché des opérateurs privés. Depuis septembre dernier, ce train de 26 wagons effectue 2 rotations par semaine. À l'intérieur de ces conteneurs, du clinker, un composant du ciment. Le convoi relie le port de Sète à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne. Pour les patrons de l'usine destinataire, c'est le bénéfice écologique qui a primé.
C'est plus efficace de mettre un train plutôt que 60 camions. Le second avantage, et c'est pour nous une des principales raisons pour lesquelles on l'a utilisé, c'est sa sobriété en termes de CO2. Le fait d'utiliser du train par rapport à des camions, ça fait 6000 tonnes de CO2 émis en moins par an sur notre liaison entre Sète et Tonneins.
Une empreinte carbone réduite et des coûts maîtrisés. C'est l'argument commercial de Régiorail. Cette PME de transport ouvre en moyenne 5 nouvelles lignes par an.
C'est bon pour moi, vous pouvez y aller.
Allez, super.
Voilà, le client nous a donné l'autorisation de circuler.
Allez, bon,
merci.
On fait la manœuvre.
On est peut-être un peu plus flexible en entreprise privée. On offre une gamme de possibilités un peu plus grande à nos clients. On est capable aussi d'avoir des trafics où on mutualise plusieurs clients sur nos trains. Et ensuite, au niveau habilitation des agents qu'on a, on est polyvalent aussi. On a des gens qui peuvent faire plusieurs métiers et plusieurs habilitations. Ils peuvent être conducteurs de manœuvre et en même temps agent sol ou agent d'accompagnement. Donc ce qui nous permet d'avoir des coûts moindres que ceux de la SNCF, par exemple.
Malgré ce frémissement dû au secteur privé, le rail pâtit encore d'une mauvaise réputation. Retard dû à des pannes et des déraillements, grève à répétition, reste l'enjeu très coûteux de la modernisation du réseau. Le gouvernement a promis d'y consacrer plusieurs milliards jusqu'en 2022.
Alors, question de téléspectateurs, le fret ferroviaire va-t-il créer de l'emploi ou du chômage? Parce que Sophie Fay, quand même, c'est vrai que la priorité du moment, c'est quand même l'emploi.
C'est la priorité du moment, mais le fret est neutre là-dessus. De toute façon, aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles le fret aurait un avantage, c'est qu'il n'y a pas assez de chauffeurs routiers. En ce moment, les transporteurs ont du mal à recruter, donc finalement, il y a une pénurie d'emplois et on fait venir parfois, on a recours à des sociétés de transport d'autres pays. Et puis, pour le fret, en fait, ce dont le gouvernement parle, c'est des autoroutes ferroviaires. Donc, ce n'est pas... prendre le camion, le mettre sur le train. Le train traverse la France et puis à l'autre bout, il faut récupérer les produits et puis les embarquer sur un bateau ou bien les redistribuer un peu partout. Donc il y a toujours de l'emploi et le plus gros de l'emploi est au dernier kilomètre. C'est comment on fait à la fin de la chaîne. Donc de toute façon, il n'y a pas de débat entre le fret et l'emploi.
Mais Magali Regezza, tout à l'heure, Frédéric Danhé disait. Au-delà, il faut repenser tout le modèle. On a fait des villes, on transporte des légumes sur des milliers de kilomètres. Il faut peut-être repenser un modèle plus local. Est-ce qu'il ne faut pas repenser un modèle? On a bien vu ce qui baisse la pollution. La pollution a baissé de 30% en France avec le confinement. Il faut peut-être moins d'activité. Alors, c'est ce qu'on appelle les décroissants. Alors, mais c'est vrai, si on produit moins, on pollue moins.
Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. D'abord, pollution et émission de gaz à effet de serre, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça converge, mais ce n'est pas la même chose. Maintenant, quand on regarde ce qui s'est passé pour le Covid, ce n'est évidemment pas ce qu'il faut faire.
Le confinement.
Le confinement. C'est absolument pas ce qu'il faut faire du point de vue environnemental pour deux raisons. Parce que d'abord, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. Et on commence à le voir, c'est-à-dire que la reprise en fait, économique va faire qu'on va réémettre ce qu'on n'a pas émis. Et le point central, c'est que derrière, on n'a pas fait les transformations structurelles, on ne s'est pas attaqué aux causes structurelles des émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, ça ne sert à rien de confiner les gens tous les ans, deux mois. D'abord, c'est un coût social, psychologique, économique, apocalyptique, mais surtout, c'est inutile. Parce qu'en fait, on ne touche pas aux causes structurelles de ces émissions. Et une, effectivement, des causes structurelles de ces émissions, ce sont les modèles économiques dans lesquels nous vivons. Pour le faire de façon très schématique, en gros, nous vivons sur un système capitaliste qui se nourrit de la consommation. Si, en gros, vous ne consommez pas, il n'y a plus de capitalisme. Bon. Une fois que vous avez posé ça, c'est le vélo, si vous arrêtez de pédaler, ça tombe, là, c'est pareil. Il faut consommer, il faut produire, et donc on a mis en place des systèmes, par la publicité, par l'obsolescence programmée, par des besoins qui peuvent parfois paraître superflus, mais qui sont aussi parfois tout à fait nécessaires, vous avez besoin de vous habiller, de manger, etc. Un modèle de société qui fonctionne ensuite sur des réductions de coûts, qui appellent des distances plus grandes, donc un recours au transport, etc., et dans lequel, en particulier, l'énergie est extrêmement importante, et pour faire cette énergie, il faut consommer des énergies fossiles, des matières fossiles, qui sont extrêmement importantes dans les rejets de gaz à effet de serre. Et il y a tout un débat aujourd'hui chez les économistes sur, effectivement, la question de la croissance et de la décroissance. Et là aussi, on a des caricatures sur ce débat. Quand vous regardez la croissance économique des pays, elle va de pair. C'est quasiment partout la même chose. On a très peu d'exemples où ce n'est pas le cas. Où en fait, la croissance est couplée aux émissions de gaz à effet de serre. Pour avoir de la croissance, vous êtes obligé d'utiliser de l'énergie, des matières, etc., donc de produire des gaz à effet de serre. Toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut découpler la croissance, dont on a vu qu'elle apporte des tas de choses aux populations, hein, en particulier de l'emploi, et puis la question des émissions. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que beaucoup d'économistes aujourd'hui sont en train de dire, mais si on mesurait ça autrement ? C'est-à-dire, si au lieu, par exemple, de prendre l'indicateur du PIB, qui est l'indicateur de croissance qu'on a depuis les années 30, je crois, si on prenait autre chose, si on regardait par exemple dans la croissance, on rajoutait des indicateurs, le bien-être des gens, l'habitabilité, la santé, etc., déjà on aurait des choses un peu différentes. Et ensuite, effectivement, on va réfléchir à changer les causes structurelles. Et pour changer les causes structurelles, ça veut dire qu'il va falloir non pas revenir en arrière, ça ne veut pas dire qu'il va falloir produire des chômeurs en masse, appauvrir les populations, revenir à l'état de caverne, ça veut dire simplement qu'on va devoir reconvertir. C'est-à-dire que quand on va mettre un euro, par exemple, sur les activités de transport qui sont en crise. Les transports, c'est un des premiers secteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on les met pour reproduire à l'identique ce qui émet des gaz à effet de serre, ou on se dit, tiens, peut-être que ces emplois-là, en fait, on est en train de les coller sous perfusion. Parce que le fond du problème, c'est ça. Je ne parle pas des emplois, je parle plus des gaz à effet de serre, je parle de la viabilité de ces emplois. Quand vous savez qu'aujourd'hui, vous allez avoir un renchérissement des matières, des énergies fossiles, qui est lié à la structuration du marché des énergies fossiles, et que vous continuez à avoir des activités qui sont dépendantes de ces énergies fossiles, à un moment, vous allez vous dire que ces emplois-là, ils ne sont pas viables. Je rappelle encore, l'histoire, elle est parlante là-dessus. On a eu en France les mines. On a eu en France les chantiers navals. On a eu en France les industries textiles. Rappelez-vous les canuts de Lyon. Les canuts de Lyon, ce n'est pas il y a 10 ans, c'est au 19e siècle. Toutes ces industries, elles ont eu de plein fouet des chocs qui ont été liés à des transformations politiques, économiques, sociales. On sait que ça va arriver. Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas, on se met autour de la table et à un moment, on réfléchit à comment est-ce qu'on accompagne la reconversion de certains secteurs et ça va créer des emplois. D'accord. Bien sûr que ça va en détruire.
Alors moi, je trouve que on a tout à fait envie d'être avec vous de façon intellectuelle, mais on a tous envie de s'acheter une voiture. Et Nicolas Hulot lui-même, je crois qu'il avait une collection de voitures thermiques. On a tous envie de prendre l'avion. Est-ce qu'il ne faut pas changer les têtes aussi, Frédéric Danhé ? Et je voulais arriver par là, je voulais dire, est-ce qu'il n'y a pas la jeunesse qui, elle, pour le coup, est capable, contrairement à notre génération, de dire, tiens, je ne vais pas prendre l'avion, je vais aller à Copenhague en train. Est-ce que la jeunesse est au fond plus radicale que ne l'a été notre génération, qui quand même n'est pas prête à renoncer à son petit confort fossile ?
Je ne sais pas si elle est plus radicale, mais en tout cas, manifestement, dans les enquêtes d'opinion et dans ce qu'ils achètent, ils achètent moins de produits que nous achetons. Encore que, on pourra en discuter. Mais globalement, encore une fois, si on se fie aux enquêtes d'opinion, les jeunes veulent moins prendre l'avion. Mais en fait, c'est pas tellement les jeunes qu'il faut voir, c'est les parents de jeunes enfants. C'est les familles, c'est les familles avec un seul enfant qui font changer les choses. C'est les familles avec un seul enfant qui ont amené le bio, qui ont démocratisé le bio. parce que c'est elles qui ont une demande à laquelle a répondu la grande distribution, laquelle grande distribution a élargi le marché du bio et a banalisé le marché du bio. En fait, économiquement, moi je pense, ce que je constate, c'est les parents avec un jeune enfant qui sont les plus grands promoteurs, les meilleurs promoteurs d'une économie différente, en particulier sur l'alimentation, même si en même temps, effet rebond, c'est les parents avec jeunes enfants qui achètent des SUV. Mais pour en revenir...
Et qui, en ce moment, ne prennent plus leur transport en commun. D'ailleurs, on prend tous notre voiture parce qu'on a peur du Covid.
Et
les transports en commun sont vides.
Et c'est lié au fret. Moi, je prends le RER pour venir à Paris. Le RER, dans une telle situation, le RER D, qui est le mien, que moi, parfois, je prends la voiture.
Donc, vous voyez, on a toujours une bonne raison de dire l'écologie attendra. Au fond, c'est le temps long et moi, le temps court. C'est mon emploi et il faut vite que je...
Oui, enfin, sur le fret, on voit bien, là, c'est les annonces du Premier ministre. Enfin, c'est le cinquième plan de relance du fret que moi, je vois venir. Moi, je passe ma vie à animer des débats sur ce sujet-là. Le fret, on l'a laissé tomber parce que la SNCF s'en fichait, parce que la CGT n'en voulait pas, parce que la SNCF, sur demande de l'État, a investi sur les voies TGV et a désinvesti sur les petites lignes, a désinvesti sur les gares, a désinvesti sur le fret. De la même façon, on a totalement désinvesti sur le fluvial. S'il y a bien un moyen de transport massifié qui émet rien du tout en carbone et en dioxyde de soufre et autres particules, c'est la péniche. Mais derrière tout ça, il y a une question de coût. Il y a une question de coût que ne paye pas, si vous voulez, le routier... a un prix. Le train a un prix qui est supérieur parce qu'il y a de la manutention en plus. Le fluvial, c'est encore pire. Le routier, rien n'est corrigé par des subventions de l'État. Oui.
Non, mais je comprends tout à fait. Ouais. Alors que le vous dites, ils ne payent pas pour les externalités négatives. Comme
exactement.
On dit,
et il y avait eu un moyen de faire payer aux routiers, au transport routier, le coût réel d'usage de la voirie, c'était la taxe carbone.
Oui.
Que Ségolène Royal a refusé.
Alors, Françoise Vimeux, on parle tous de la voiture électrique. Est-ce que l'électricité est quand même une énergie qui a l'avantage de ne pas émettre de CO2, alors si tant est que ce soit propre? Je vais juste vous montrer, c'est un projet anglais. Voilà, vous avez vu, ce sont des camions caténaires. En Angleterre, ils envisagent de faire des autoroutes électriques, c'est-à-dire qu'il y aura des lignes électriques et les camions, comme ça, pourront rouler sur les autoroutes en prenant l'électricité au ciel.
Plusieurs choses. D'abord, pour revenir sur la question du transport, Magali l'a dit, le transport, c'est 30% des émissions, pas tout à fait 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et sur ces 30%, la moitié, c'est les voitures individuelles. Le reste, c'est les poids lourds, les véhicules utilitaires et les vols intérieurs. Et les vols intérieurs, au passage, c'est 1%. Mais effectivement, ce n'est pas une bonne idée de prendre l'avion parce que on émet à peu près 60 fois plus de gaz à effet de serre que le même trajet en train. Donc sur les voitures individuelles, on pense tout de suite voiture électrique. Alors la voiture électrique, d'abord, ça dépend comment l'électricité est réalisée. Si c'est une grosse centrale à charbon qui fournit l'électricité, la voiture électrique, c'est une très mauvaise chose. Si en fait votre électricité, c'est une énergie nucléaire, l'énergie nucléaire, elle ne rejette pas de carbone dans l'atmosphère. Donc ça dépend vraiment de comment l'électricité va vous être d'abord, je dirais, transportée, fabriquée, etc. Après, la voiture électrique, il y a d'autres problèmes qui ne sont pas liés au rejet de gaz à effet de serre. C'est les problèmes sur les batteries. C'est un déchet, en fait, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Mais il y a quand même un problème sur la voiture individuelle, c'est clair. Et pour revenir à ce qui a été dit, c'est vrai qu'en tout cas, moi je le vois en région parisienne, si on avait une offre de transport en commun qui fonctionne tous les jours, ça serait quand même une solution extraordinaire. Et on voit aussi que les gens prennent de plus en plus leur vélo. Les magasins de sport, les rayons vélo sont dévalisés. On nous a fait des pistes cyclables en nous mettant des pochoirs jaunes qui représentent des petits vélos, mais on risque notre vie à chaque tournant. Qu'on nous fasse des vraies pistes cyclables. Voilà des choses que l'on pourrait faire. Je ne pense pas que ça coûte très cher de faire une piste cyclable. Il y a beaucoup de personnes qui prennent leur vélo et qui seraient ravies. Et donc, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire au niveau local, au niveau départemental, qui sont de plus en plus à creuser et qui vont répondre aux problèmes du transport. Et le fret, je crois que c'est... les poids lourds, c'est 6 à 7% dans ces 30% d'émissions de gaz à effet de serre par les transports. Les poids lourds, je crois que c'est 6 à 7%.
D'ailleurs, à chaque fois, un lobby dit « Mais moi, je ne représente que 5%
ou 4%. » Et encore... Et le transport.
Pourquoi vous vous attaquez à moi?
Moi, je pense qu'on a une diversité de sources de gaz à effet de serre en France. Les transports, c'est 30%, mais vous avez les habitations avec le chauffage, vous avez l'industrie du ciment, vous avez, etc. Puis vous avez l'agriculture, mais là, effectivement, c'est aussi un souci. Mais donc, il faut tabler un petit peu sur toutes les sources et voir ce qu'on peut, comment on peut diminuer chacune de ces sources avec, bien sûr, un accompagnement social et économique qui est fondamental.
Justement, Sophie Fay, sur les lobbies, les grands patrons, faut-il les croire quand ils nous parlent de conversion écologique? Je dis ça, le patron de Total, par exemple, il dit l'électricité sera l'énergie du 21e siècle. Est-ce qu'il est sincère ou est-ce qu'on accuse souvent les grands patrons de faire ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire de se faire de la publicité en faisant croire qu'ils épousent la transition écologique, mais en faisant toujours l'essentiel de leur beurre sur l'ancien modèle? Comment vous les apercevez, cette sincérité des grands patrons? Est-ce qu'elle est réelle?
Pour moi, il y a eu trois étapes. Il y a eu une première étape où, même si Al Gore faisait le tour du monde en parlant du climat, ça ne les intéressait pas trop. Leur modèle économique, c'était la croissance en bourse, c'était vendre plus, c'était toujours plus. Et puis, effectivement, ma dernière usine, je me débrouillais pour qu'elle soit plus performante sur le plan environnemental, qu'elle consomme moins d'énergie, parce qu'aussi, quand elle consomme moins d'énergie, ça me fait plus de bénéfices à la fin. Et puis, il y a eu une deuxième phase qui a été celle de la prise de conscience. Donc, elle est venue progressivement. Elle n'est pas partout, mais on voit qu'elle arrive de tous les côtés. Et ce qui me frappe, par exemple, c'est qu'elle arrive par les enfants de plusieurs de ses patrons. En fait, quand vous parlez avec eux, y compris avec Bruno Le Maire, il a eu un repas, une conversation avec ses enfants au moment de la réforme des retraites en disant « on fait tout ça pour vous, est-ce que vous en êtes conscient ?» Ils lui ont dit « mais écoute, la réforme des retraites, occupe-toi de la planète, quoi. » Enfin, c'est, ça fait réfléchir. Et quand vous l'entendez, sur le campus de Polytechnique, Total devait installer un centre de recherche. Et les étudiants se sont mobilisés parce qu'ils ne voulaient pas le lobby de Total au cœur de leur campus. Et on voit que...
Ça a dû faire réfléchir le patron de Total.
Ça fait réfléchir. Donc, on voit que, par tous les côtés, s'ils veulent recruter des jeunes, s'ils veulent attirer, s'ils veulent que les consommateurs les croient aussi, il faut qu'ils soient sincères dans leur démarche. Donc, aujourd'hui, je crois qu'ils en ont pris conscience. Et donc, là, on est au moment de la prise de conscience. Maintenant, il faut passer aux travaux pratiques. Les travaux pratiques, il faut reconnaître que personne ne sait comment faire. Il n'y a pas de solution. C'est vraiment un problème de système global. Et aujourd'hui, ils disent, si nous, en Europe, par exemple, on y va à fond, on se donne des normes, on est exigeant, on a un risque qui est qu'on produira moins en Europe et on importera ce qu'on fait à l'extérieur avec beaucoup de carbone parce que ça sera beaucoup moins cher. Donc, il faut donner un prix à ces émissions, il faut donner un prix à cette pollution. Et ce qui a nettement changé depuis les patrons, et ça fait déjà quand même quelques années, c'est qu'aujourd'hui, ils sont prêts à faire ces efforts à condition qu'il y ait un prix qui soit valable pour tout le monde. Et ils sont assez...
Une taxe carbone aux frontières de l'Europe.
Une taxe carbone aux frontières de l'Europe ou un prix du carbone pour l'ensemble de la planète qui fait que l'acier chinois ne sera pas moins cher qu'un acier français et que celui qui produira de l'acier avec du charbon ne sera pas pénalisé par rapport à celui qui essaiera de décarboner son économie. Et donc, la difficulté de ça, c'est qu'on voit bien que c'est un sujet planétaire, qu'il faut un consensus mondial. Et on voit aujourd'hui, avec les tensions, d'abord avec les attitudes et les convictions de chacun, que ce n'est pas évident. Hein, Donald Trump n'est pas du tout là-dedans. Et puis on voit qu'avec les tensions commerciales, les compétitions, ce n'est pas simple. Et même à l'intérieur de l'Europe, on voit qu'une économie comme celle de la Pologne, qui est en train de rattraper, les Polonais n'ont absolument pas envie d'entendre parler de décroissance. Ils fonctionnent au charbon. Ils aimeraient bien changer, mais pas à n'importe quel prix. Et donc, on voit que c'est un problème qui est encore qui est compliqué. Mais la prise de conscience, elle est là. Et je pense que les patrons ne sont pas forcément un frein, même s'il y a toujours des petits malins. En ce moment, vous avez vu le... Jim Ratcliffe qui veut racheter l'usine de Smart d'Ormozel pour produire des SUV polluants. Donc lui, il a fait tout son modèle sur tout ce que les autres ne veulent pas faire puisqu'on leur met des normes, puisqu'ils ont envie d'être vertueux. Lui, il récupère tous les business pas vertueux et puis il en a fait une immense fortune.
Alors justement, puisqu'on parle d'énergie propre, l'hydrogène serait-il l'énergie du futur? Léger, facilement stockable, ce gaz a l'avantage de ne pas rejeter de CO2 dans l'atmosphère. L'Allemagne, par exemple, a prévu d'investir 7 milliards d'euros dans un plan hydrogène. Objectif, faire baisser son coût de fabrication et en faciliter l'utilisation pour produire de l'électricité ou encore pour se déplacer sans polluer. Sujet d'Emilien David et Maxime Liogier.
Il arrive en silence, comme s'il glissait sur le macadam. Voici l'un des premiers bus à hydrogène de France, en service depuis septembre dernier dans les Yvelines. Pour faire le plein, direction cette station-service spécialement équipée. Ici, pas d'essence ni de diesel, mais du gaz. Temps de passage à la pompe, un quart d'heure.
C'est raisonnable quand même, parce que 15-20 minutes, pour faire un plein comme ça, c'est comme si on faisait un plein complet d'un car à moteur thermique, en fait.
Avec un plein de 39 kg d'hydrogène stocké dans des bonbonnes sur le toit, le bus peut rouler 300 km grâce à un système caché à l'arrière de l'appareil.
Sur un véhicule normal, on aurait un gros moteur diesel. Là, on a des boîtiers électroniques et on a la pile à combustible qui est située ici. Donc, elle récupère l'hydrogène des bouteilles et elle transforme tout simplement l'hydrogène en électricité qui va alimenter le moteur électrique du véhicule. Et on ne rejette que quelques gouttes d'eau du véhicule quand il roule sur son passage. Voilà.
Cette centrale électrique embarquée remplace donc les batteries lourdes et encombrantes que l'on trouve dans les véhicules électriques classiques. Une solution en apparence écologique, mais en réalité polluante. Car en France, 90% de l'hydrogène est fabriqué à partir d'hydrocarbures, généralement du méthane. C'est le vaporeformage. Les molécules de méthane sont chauffées dans un four avec de la vapeur d'eau. La réaction produit du dihydrogène, mais aussi du CO2. Une autre solution, plus écologique, est expérimentée au milieu de la Méditerranée, sous le soleil corse.
Alors on a une centrale photovoltaïque de 560 kW crête, donc 2240 panneaux.
Bienvenue sur la plateforme MIRT, un projet unique en France, développé par l'Université de Corse et le CNRS.
Donc la centrale photovoltaïque génère de l'électricité, une partie est injectée dans le réseau électrique, et une partie va servir à produire de l'hydrogène. C'est là que ça se passe.
Ici, l'hydrogène est produit à partir d'énergie solaire et d'eau, grâce à cet électrolyseur. Les molécules d'eau sont décomposées, grâce à un courant électrique. On récupère ensuite les atomes d'oxygène et d'hydrogène.
Ça, bien entendu, c'est des électrons verts, donc c'est totalement écologique. Donc on ne parle plus d'énergie fossile, on parle du soleil, des gisements soleil. C'est-à-dire qu'à travers une plateforme comme ça, on met le soleil en bouteille.
La technologie fonctionne, mais elle n'est pas encore viable. Les rendements sont très faibles, à peine 30%. Et c'est surtout très cher, deux fois plus que la production à base d'hydrocarbures. Pour que l'hydrogène vert devienne rentable, il faut encore améliorer les performances. Et les prix pourraient également baisser si la demande se développe.
Plus on va faire de piles à combustible, plus on va faire d'électrolyseurs, plus il y aura un déploiement accru, plus, bien entendu, les coûts vont diminuer. Et pour cela, il faut de l'aide à l'investissement à travers l'État, une aide forte, et une aide pour les usagers.
Car pour les usagers, la facture est hors de prix. 600 000 euros pour un bus, au moins 50 000 euros pour une voiture, et compter 15 euros de carburant pour parcourir 100 km. Les stations de recharge sont aussi difficiles à trouver. La France n'en compte qu'une trentaine actuellement.
Alors, question téléspectateur. La fabrication de l'hydrogène n'est-elle pas polluante,
si.
Fabrique d'Henri.
Ben si, parce qu'il faut chauffer du méthane à 800 degrés. Le méthane est un gaz à effet de serre, etc. Il y a deux façons de produire l'hydrogène de façon non polluante. On l'a vu, c'est l'électrolyse. Ça, c'est les cours de physique au lycée. Ou en cinquième, oui. Ouais, on a un fil électrique dans l'eau, là, il y a des bulles, et on récupère, mais l'hydrogène d'un côté, l'oxygène de l'autre.
Et là, ça ne pollue pas.
Là, ça ne pollue pas.
Alors pourquoi ne fabrique-t-on pas de l'hydrogène avec cette fameuse électrolyse qu'on a tous appris en cinquième
et il faut l'électricité, mais il faut une électricité propre. On ne fait que dépasser le problème. Donc, ou bien elle vient des centrales nucléaires, ou bien elle vient des éoliennes. Mais des éoliennes en France, personne n'en veut. Enfin, tout le monde en veut, mais jamais près de chez soi. Donc, en fait, les champs d'éoliennes ne sont pas suffisamment nombreux. L'autre méthode, c'est la quatrième génération de réacteurs nucléaires sur laquelle la France a refusé de continuer à investir. Voilà.
Magali Reguedza, on sent bien qu'en tous les cas, il y a un foisonnement de technologies. On recherche là, le Graal technologique. Renault dit qu'il s'intéresse quand même à la voiture à hydrogène. Il ne dit pas que c'est la solution, il cherche. Pendant ce Covid, on a quand même pris conscience qu'il y a des technologies qui appartenaient au passé. Je reviens sur Total, qui vient dans ses comptes trimestriels de dire, eh bien, écoutez, il y a des champs que nous avons et que nous n'exploiterons jamais. Ils ont passé ce qu'on appelle les dépréciations d'actifs. On a quand même l'impression qu'on a tourné la page du charbon et qu'on va tourner la page du pétrole. Non ?
Vous y allez fort.
Oui, voilà, parce qu'effectivement, on aimerait bien qu'elle se tourne beaucoup plus vite, celle du charbon.
Mais il s'est passé quelque chose dans nos têtes pendant ce Covid, ça ne nous a pas fait réfléchir.
Alors, il y a plusieurs choses, et on revient en fait en amont sur des questions qui ont été posées au cours de l'émission, qui est, on voit bien qu'il y a plein d'actions, et il y a plein de gens qui peuvent intervenir. Et entre le comportement de la PME, le comportement de la multinationale, le comportement de vous, moi, n'importe qui, il y a des multitudes d'actions qui à un moment vont converger. C'est comme si vous voulez, vous aviez un orgue, l'orgue de Notre-Dame, vous avez plein de boutons pour faire la musique, il faut savoir sur quelle touche appuyer à quel moment et il faut le faire ensemble. Et donc effectivement, on se rend compte aujourd'hui que la technologie et l'investissement dans les technologies, il est fondamental. Il est fondamental parce que sans ça, on n'arrivera pas à avancer et que derrière, il y a quand même un enjeu énorme de souveraineté nationale. Il y a un enjeu de crédibilité internationale, il y a un enjeu de compétitivité. On est mignon avec nos petites voitures diesel, mais enfin, dans 20 ans, quand on arrivera avec nos jolies petites voitures diesel, on nous dira, excusez-moi les gars, on n'en veut plus. On n'en veut plus parce qu'il y en aura d'autres.
C'est 4 ans dans Paris, hein, elles vont être interdites.
Il y en aura d'autres et puis il y aura des choses plus intéressantes et puis parce que ça avance. Sur les individus, le problème, et ça je tiens à revenir aussi, c'est que cette technique, elle peut, on l'a déjà dit, nous accompagner. Elle peut permettre de réduire un petit peu l'effort. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les personnes aujourd'hui qui vont être le plus vulnérables à ces changements environnementaux sont celles qui sont le plus vulnérables aux mesures d'atténuation et aux mesures d'adaptation. C'est un cercle vicieux. Parce qu'effectivement,
les gilets jaunes, phénomène gilets jaunes.
Par exemple. Parce qu'effectivement, la voiture, et c'est ce qu'on a dit, les gens ne font pas non plus exprès de prendre la voiture. Il y a des gens qui aimeraient bien ne pas la prendre. Quand on parle de l'avion, l'avion, ça concerne une toute petite frange de la population. Il y a des gens qui aimeraient juste partir en week-end ou en vacances. Et donc, je comprends que ces débats-là, ça paraît complètement hors sol. C'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer à des gens qui ne savent pas comment manger à la fin du mois, qui vont se retrouver au chômage et perdre leur emploi, qu'il va falloir en plus se serrer la ceinture, parce que c'est eux qui vont se serrer la ceinture. Ce n'est pas les populations riches. Je veux dire, effectivement, Donald Trump, il n'en a rien à faire. Il aura des gens pour les vanter. On trouvera toujours une solution pour lui. La question qui se pose derrière, c'est effectivement comment on accompagne ces populations pour faire en sorte qu'elles puissent vivre de façon décente, voire plus que décente, dans le monde de demain. Et comment est-ce qu'on fait que ces efforts ne portent pas sur elles. Moi, je pense par exemple à la jeunesse Covid, à tous ces jeunes aujourd'hui qui ont du mal à rentrer sur le marché de l'emploi, les jeunes notamment non qualifiés. Si on les embarque dans des métiers qui n'ont pas d'avenir, on ne fait que reculer le problème. Quand on va travailler sur la reconversion, quand on va par exemple travailler sur la rénovation énergétique, François l'a dit tout à l'heure, c'est un secteur énorme, la rénovation énergétique du bâti. On y a consacré un chapitre entier dans le rapport du Haut Conseil du Climat. Il faut pouvoir former des gens. Il y a de l'emploi derrière. Alors oui, je le dis très clairement, les politiques de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et les politiques d'atténuation vont détruire des emplois. Elles vont aussi en créer. La question, c'est, il y a des territoires qui vont être gagnants, des territoires qui vont être perdants. Il y a des populations qui vont être gagnantes, qui vont être perdantes. Mais enfin, quand même, et la formation professionnelle, et l'innovation, et la création d'entreprises, ça existe aussi. Regardez ce qui se passe avec le Covid. Le Covid, c'est dramatique, mais ça a été aussi un gisement d'innovation parce qu'on a vu plein d'entreprises qui se sont aussi créées pour fonctionner autrement, avec des modes de vie qui se sont renouvelés. Donc, il y a de l'innovation sociale. Elle n'est pas que technologique, l'innovation. Et donc, derrière, il manque un pilote. Il manque effectivement, à un moment, une volonté politique qui dise, on a une stratégie. Vous voulez du fluvial, il va falloir faire de l'aménagement du territoire. Vous voulez de l'emploi, il va falloir se demander comment
donc,
on forme.
Donc le Conseil de défense écologique qui fait une politique de petits pas, ça, c'est pas efficace c'est pas en disant on commence par interdire les centrales au fuel, enfin les chauffages au fuel.
C'est pas incompatible, il faut une stratégie d'ensemble avec une vision et des jalons qu'on évalue. Ouais. J'insiste, qu'on évalue. Et ensuite, derrière, ça ne marchera que par des petits pas. Parce qu'effectivement, ce que vous allez faire, vous, pour réduire votre empreinte carbone, ce n'est pas ce que va faire mes voisins, parce que vous n'avez pas le même bilan carbone, et heureusement d'ailleurs. Les petits pas sont nécessaires, ils ne sont pas suffisants. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une volonté politique qui embarque les gens là-dedans.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, les vols intérieurs vont-ils être interdits? Quand même, en termes de prise de conscience, qui aurait pu imaginer qu'on se pose cette question il y a 3 ou 4 ans? Non, Françoise Guimeux?
En fait, on a une alternative qui est simple sur le territoire métropolitain, c'est de prendre le train. Donc, je pense aussi que c'est une mesure qui peut être facilement acceptée en disant, on a quand même ces trains qui vont très vite. Bon, sauf si vous allez à Toulouse, ça va mettre un petit peu plus de temps. Mais je pense que c'est aussi un petit peu un effet d'annonce de dire, on va prendre davantage le train que l'avion. L'avion, quand on regarde l'avion, les vols intérieurs, encore une fois, hein, c'est très peu d'émissions de gaz à effet de serre. Mais encore une fois,
je le dis, il faut s'attaquer à toutes les sources. Et donc, si on peut réduire en prenant le train plutôt que l'avion, puisqu'on réduit vraiment,
c'est toujours ça de prix.
Et ben, c'est toujours ça de prix. Voilà.
Si l'utilisation des véhicules électriques est effectivement propre, qu'en est-il de leur construction, Sophie Fay?
Il y a toujours des débats sur les métaux rares, mais on voit bien aussi qu'on avance quand même vers le recyclage.
Production de batterie qui est souvent critiquée aussi.
Voilà. Tous les métaux qui sont dans la batterie, on sait pas. Ouais. On a du mal à les trouver. On ne sait pas comment les. Enfin, c'est des métaux rares qui sont difficiles et les conditions de leur extraction sont pas forcément formidables. Et en plus, on ne sait pas forcément les recycler. Mais c'est quand même un progrès. Mais c'est un progrès. Ça dépend dans quel pays on est. Et ça dépend ce qu'on pense de l'énergie nucléaire. Elle n'émet pas de CO2, donc c'est un progrès. Mais elle émet des déchets, donc on peut se poser la question des déchets et la question de la dangerosité. Et parfois, ce qui est frappant, c'est la vitesse ou la lenteur, le manque de vitesse du progrès. On voit, moi je suis frappée par exemple, l'Allemagne a décidé de dire stop au nucléaire depuis Fukushima, et on se dit depuis, il y aurait dû avoir des progrès progrès fulgurants sur le renouvelable, sur le stockage, sur l'hydrogène par exemple, et on voit que finalement c'est beaucoup plus lent. Donc là il y a une initiative par exemple sur l'hydrogène qui est intéressante et qui se passe du pilote, parce qu'on voit bien que le pilote en haut, il ne sait pas faire, on aimerait bien qu'il y en ait qui sache faire le dessin de ce schéma formidable de décarbonation, mais on ne sait pas, et puis ce n'est pas forcément le rythme des élections, et puis même si on le faisait dans l'absolu, on n'est pas d'accord entre nous sur la manière de le faire. Donc finalement, il faut peut-être être plus pragmatique et se dire que chacun fait ce qu'il peut dans son coin, et sur l'hydrogène, il y a un groupement qui s'appelle JEDI, qui essaye de copier la DARPA américaine, puisqu'on a la DARPA, c'est l'organisme qui organise des compétitions pour accélérer l'innovation technologique, et puisqu'on n'arrive pas à le faire de manière institutionnelle au niveau de la Commission européenne, ils ont décidé de trouver des partenaires, de lever des fonds et de faire des compétitions avec appel à projet. Sur l'hydrogène, ils vont en lancer une à partir de septembre, où ils vont dire, toutes les équipes de chercheurs peuvent, tout le monde peut concourir, les équipes de chercheurs, les start-up, et on va essayer de diviser par trois le coût de production de l'hydrogène vert, donc de cet hydrogène qui vient de l'énergie renouvelable. Et allez-y, tout le monde peut venir avec son idée, que ce soit le chercheur du CNRS, le chercheur d'une université allemande, la start-up, le centre de recherche et développement de Total, celui de Renault, ou bien le gars chez lui qui a une idée, il va pouvoir concourir et on va pouvoir recomposer les équipes en compétition, mais aussi en coopération, pour essayer de trouver. Il faut des initiatives comme ça, parce que finalement, le progrès, on en a besoin, on n'en a plus que jamais besoin, et il ne va peut-être pas si vite que ce qu'on espérerait.
Quelles propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat vont finalement être adoptées, Frédéric Denré? Il y avait les fameux 110 km/h, ça ne risque pas d'être adopté.
Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose. Puis de toute façon, le gouvernement, j'en attends pas grand-chose non plus. Il suffit de voir là ce qui vient d'être évoqué. Mais en fait, on l'a bien dit dans cette émission, c'est vraiment un manque de vision. À quoi ça va servir d'avoir des voitures électriques ou des voitures à l'hydrogène si de toute façon on se retrouve dans les mêmes bouchons dans 20 ans? Derrière la question de la voiture, c'est la question de l'usage, c'est la question de la voirie, c'est la question de l'aménagement du territoire, c'est la question de la localisation des gens, c'est la question des besoins.
Donc il faut qu'on retourne dans la ruralité de nos grands-parents ?
Non, c'est pas la question du tout. C'est repenser nos besoins à l'aune du coût croissant de l'énergie et à l'aune de nos émissions de gaz à effet de serre qu'il faut diminuer. L'hydrogène, c'est très bien, les voitures électriques, c'est très bien, sauf que ça peut être une fuite en avant technologique qui va tout faire sauf changer véritablement la société. Encore une fois, la voiture, on voit bien en Ile-de-France, il faut des transports publics, mais l'étalement urbain lié au prix du foncier fait qu'on est toujours trop loin des transports publics. Donc on prend la voiture, on aura
mais
des bouchons
les, mieux. Les terrasses chauffées, par exemple, l'interdiction des terrasses chauffées, ça va dans le bon sens.
Oui, c'est bien, c'est symbolique. Enfin, c'est peanuts par rapport au problème.
C'est avec des petits gestes qu'on peut y arriver aussi.
Oui, je suis d'accord.
Quelle est la place de la France dans le classement des pays par émission de gaz à effet de serre, Magali Regeza? Il paraît qu'on est, exemplaire.
Alors, ça dépend comment on compte, et ça dépend ce qu'on compte. D'abord, quand vous comptez les émissions, vous pouvez regarder combien en bilan brut vous émettez. Vous pouvez regarder par tête de pipe. Ouais. Typiquement, la Chine, ils sont 1,5 milliard. Donc, quand vous divisez le total de la Chine, c'est le premier ou le deuxième selon les classements, selon les années. Quand vous divisez par 1,5 milliard, ils redescendent, mais alors au bas du classement. Mais pour autant, les gaz à effet de serre, ils sont quand même dans l'atmosphère. Deuxièmement, il y a aussi un problème, c'est l'émission brute et l'empreinte carbone. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, alors on a fait l'exercice sur les régions françaises avec le Haut Conseil pour le climat, et il est apparu que la région, une des plus vertueuses, c'est l'Île-de-France. Alors ça paraît quand même bizarre, parce qu'on est nombreux tout ça. En fait, si, l'Île-de-France consomme des gaz à effet de serre, en fait, qui sont produits ailleurs. Ah.
Comme on n'a pas d'usine, la pollution est ailleurs.
Et donc, on importe, nous, en fait, nos émissions. Et donc, on se retrouve, par exemple, avec les Hauts-de-France, qui doivent être une des régions la plus émettrice, sinon la plus émettrice de France, parce que, tout simplement, l'industrie est concentrée. Et alors, quand on va demander les efforts, est-ce que c'est juste de demander aux Hauts-de-France de faire des efforts, alors même que ce n'est pas eux qui bénéficient de ce qu'ils ont produit? Donc, tout ça, ça veut dire aussi, derrière, réfléchir en termes, non pas simplement d'émissions, mais d'empreinte carbone. Sauf que, pour réfléchir en termes d'empreinte carbone, il faut être capable d'avoir des instruments de mesure. Et que dans beaucoup de cas, on se rend compte qu'on ne les a pas, ces instruments de mesure, parce que c'est plus facile de ne pas les avoir. Et donc derrière aussi, on voit qu'il y a un changement dans l'appréhension et la communication pour être capable effectivement de mesurer, de comprendre quels sont les secteurs efficaces. Et quand je parle de pilote, je ne dis pas qu'il faut revenir à l'État centralisateur jacobin qui va nous faire tout par la main, ce n'est pas ça. C'est de dire à un moment donné, effectivement on a besoin d'orientation, effectivement à un moment besoin, on va avoir besoin d'arbitrage. Parce que si on s'engage dans le nucléaire, ce n'est pas la même chose que si on s'engage sur des éoliennes ou des machins. Et à un moment, l'État, le rôle de l'État, le rôle de la puissance publique, c'est de se dire où est-ce qu'on va investir, où est-ce qu'on va désinvestir, et comment ensuite avec les territoires, et les débats qui actuellement à l'Assemblée et au Sénat sont passionnants sur ce sujet-là, où on voit en fait comment le Covid a fait remonter les territoires, comment est-ce que ces territoires vont être des maillons d'action qui vont permettre effectivement de décliner les actions en fonction des besoins. On ne travaillera pas de la même façon à Paris-Centre, à Guéret, et puis effectivement dans le rural, parce que ce n'est pas les mêmes problèmes. Peut-être qu'il y a des endroits où il faudra maintenir la voiture, il y a d'autres endroits où il faudra resserrer l'urbain, il y a des endroits où on sera intermédiaire. Je rappelle quand même, pour revenir sur la voiture une dernière fois, ce n'est pas un plaisir de passer une heure à deux heures dans les bouchons. Les gens ont autre chose à faire, c'est un coût sanitaire épouvantable, c'est un coût familial épouvantable. Et donc, sans même parler de l'environnement, on pourrait juste parler de la vie des gens qui est détruite parfois par ces transports qui, quand vous êtes deux heures et demie, trois heures dans les transports, c'est juste... C'est abominable, c'est du temps que vous ne passez pas avec vos enfants, avec votre famille. Et ça coûte cher.
Les incendies en Amazonie sont-ils toujours aussi fréquents, Françoise Vimeux?
Alors, d'abord, de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que le changement climatique, il vient augmenter le risque de l'incendie pour deux raisons. D'abord, les températures et aussi la sécheresse de l'atmosphère et la sécheresse des sols. On sait que les incendies se propagent aussi par les sols. Donc, des sols secs, une végétation sèche, une atmosphère sèche, un déficit de pluie et des températures, ça augmente le risque d'incendie partout, en particulier en France. En Amazonie, ce qu'il faut voir, c'est que c'est des incendies souvent provoqués aussi par l'homme. Et donc, c'est un petit peu différent.
Sur les terres agricoles.
Pour avancer, en fait, sur la forêt amazonienne. Donc, c'est un petit peu différent et c'est difficilement comparable à ce qu'on a vu, par exemple, en Australie, où c'était vraiment là la situation climatique qui déclenche.
On parle d'un risque de savanisation de l'Amazonie, qui ça devienne comme la savane, qui n'est plus de forêt.
À partir du moment où vous déforestez et de manière vraiment importante avec le gouvernement en place aujourd'hui, eh bien, vous changez complètement les écosystèmes là, au niveau de la flore, au niveau de la faune, et c'est quand même une catastrophe écologique importante.
Voilà, ainsi se termine cette émission. On pense quand même à l'Amazonie. Rediffusion ce soir à 22h45. Merci de votre fidélité et vous restez sur France 5. Bonne soirée.